Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Merci d'être à l'écoute de la radio Nzamba Gateka Kawe. C'est l'heure du journal de ce vendredi 3 mars 2023. Tout d'abord les titres. Les réfugiés qui vont tarder de retourner au pays seront dépouillés de leurs propriétés qui seront attribuées à d'autres personnes. Une menace de la gouverneure de l'Uyigi proférée mercredi à l'endroit des réfugiés du camp de Douta en Tanzanie. Plus de 40 jours, voilà le temps que vient de passer à la morgue le corps d'Aline Inalukondo, morte assassinée, soupçonnée d'avoir tué son épouse. Le mari a été arrêté. Les familles des deux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'inhumation d'Aline Inalukondo. Et puis, 2 mois d'arriérés de salaire, c'est ce que réclame le personnel de la société de gardiennage AFEC. Vous aurez les détails dans ce journal. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir et bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Plus de 40 jours après son assassinat, la famille d'Aline Inalukondo demande toujours son inhumation. De son côté, la famille du mari, accusée de l'avoir tué, exige une autopsie de son corps, un examen qui ne se fait pas au Burundi et qui est en contradiction avec la législation burundaise. Les proches de la défunte demandent à l'institution de l'Ombudsman de ne pas s'ingérer dans les démarches judiciaires de cette affaire. Les détails avec Bonfils Niyongere.
La famille de la défunte Aline Inalukondo déplore son assassinat et indique que la perte d'un membre de la famille par une mort atroce et inopinée, accompagnée par le droit à l'accès à son corps pour l'inhumation, est synonyme de remuer le couteau dans la plaie. Aline Inalukondo a été tuée la nuit du 21 janvier 2023 à son domicile Siza Kanyosha dans la commune Muha, à Mérido Bujumbura. Après sa mort, une expertise médicale a trouvé des traces de sang sur certaines parties du corps. À la suite du rapport médical, le procureur a directement ordonné l'arrestation de son mari, Claude Arakaza, premier suspect dans cet assassinat. Après son arrestation, sa famille a recherché des voies et moyens pour le faire sortir de la prison et d'étouffer dans l'œuf le dossier d'assassinat de sa femme. Ils ont alors exigé une contre-expertise par l'autopsie, un examen qui ne se fait pas au Burundi et qui n'est pas également autorisé par la loi burundaise. C'est par cet assassinat suivi par l'arrestation du présumé assassin qu'est né le bras de fer entre les deux belles familles, retardant ainsi l'inhumation de la défunte.
L'expertise médicale a montré qu'elle est morte des chocs traumatiques et avait des signes d'hémorragie, interne et externe, au niveau de la bouche et des oreilles. Le procureur a alors ordonné l'arrestation de son mari en présomption de son assassinat. En défense, la famille de son mari, présumé assassin, exige à son tour une autopsie du corps de la défunte. La réplique des médecins était que l'examen d'autopsie ne se fait nulle part au Burundi et que même la législation burundaise ne l'autorise pas. Mais parce que la demande a été l'émanation de l'institution de l'Ombudsman, elle a à son tour donné des injonctions aux magistrats pour verrouiller le dossier. 43 jours après son assassinat, nous ne sommes pas autorisés à procéder à son inhumation sans faire cette autopsie. L'autopsie n'est qu'un prétexte pour chercher les voies et moyens pour faire libérer le présumé assassin.
La famille d'Aline Inalukondo demande à toute personne susceptible d'aider pour que la défunte soit inhumée dans la dignité d'intervenir et à la justice de poursuivre ses enquêtes en toute indépendance.
Elle est une mère des enfants. Son mari ne l'aidait en rien. Il était souvent en garde à vue pour des coups et blessures volontaires infligés à sa femme. Nous demandons aux organisations de la promotion féminine et à l'institution de la première dame d'exiger son inhumation. La perte d'une vie suivie de la restriction sur le droit à l'inhumation, c'est en quelque sorte remuer le couteau dans la plaie. Que justice soit faite en toute indépendance, sans injonction de qui que ce soit. Nous ne sommes pas autorisés d'aller voir les enfants. La famille du présumé assassin nous en empêche.
La rédaction de la radio Nzamba Gateka Kawe, nous avons tenté de joindre par téléphone Aimée Laurentine Kanyana, mais elle n'a pas décroché pour répondre à notre appel.
Personne ne devrait être inquiété pour avoir exprimé ses opinions, même quand elles sont contraires à celles des dirigeants dans un pays démocratique. C'est ce qu'explique Madame Apollonie Simbizi, membre du conseil d'administration de l'Alliance des Burundais vivant au Canada. L'ABC plaide pour la libération de la journaliste Floriane Ilangabiye, qui, selon l'Alliance, est injustement emprisonnée et accusée d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Elle a été condamnée par le tribunal de grande instance de Mukaza le 2 janvier dernier à 10 ans de prison et à une amende d'un million de francs burundais. L'ABC Canada invite le gouvernement de mettre en œuvre des réformes de fond pour remédier au manque de justice flagrante au Burundi et fait appel à la communauté internationale pour faire pression au gouvernement burundais pour la libération de Floriane Ilangabiye. On l'écoute.
L'Alliance des Burundais du Canada a suivi ce cas et trouve que l'emprisonnement de la journaliste Floriane Ilangabiye est injuste parce que les preuves sont sans fondement, comme le dit d'ailleurs son avocat. Cette condamnation est aussi injuste parce qu'elle est basée sur des dispositions vagues du code pénal burundais, souvent utilisées de manière arbitraire, dans le but de poursuivre des personnes qui expriment des critiques sur les violations des droits humains ou de la mauvaise gouvernance des membres du pouvoir en place au Burundi. L'ABC a d'ailleurs aussi des craintes et la sécurité et le risque de harcèlement de Floriane du fait qu'elle subit régulièrement des fouilles par des policiers hommes et c'est scandaleux au lieu que ce soit des policières femmes. Et elle s'inquiète également que Floriane a déjà été agressée par un prisonnier dans la prison de Muyinga qui est toujours là et même par une personne qui était dans l'administration. L'ABC pense que personne ne devrait être emprisonné pour avoir exprimé ses opinions, même contraires à celles des autorités dans une république qui se dit démocratique. L'emprisonnement de Floriane Ilangabiye est une attaque flagrante à la liberté de presse et d'opinion qui est liée à la profession de journaliste pour exercer en toute indépendance. C'est pour cette raison que l'ABC demande au gouvernement de libérer sans condition la journaliste Floriane Ilangabiye puisqu'elle est emprisonnée injustement et lui permettre de retrouver en fait sa famille. C'est en effet une atteinte aussi à la démocratie. Depuis 2015, le pouvoir CNDD-FDD ne cesse d'intimider et d'emprisonner des journalistes ou des défenseurs des droits humains dans des procès qui ne sont pas du tout équitables et injustes. Pour cela, l'ABC en appelle au gouvernement de tout faire pour arrêter ce genre d'hostilité envers les médias et la société civile en général. Elle demande plutôt de punir tout acte de violence envers les populations, rétablir la paix, la bonne gouvernance et la démocratie pour tous dans le pays.
Rappelons que ce 2 mars, Floriane Ilangabiye a totalisé 6 mois d'incarcération. Un ultimatum est donné aux réfugiés burundais originaires de Ruyigi pour retourner au pays. La gouverneure de cette province menace d'attribuer leur propriété à d'autres personnes qui sont restées au pays. Emerancienne Tabu l'a dit ce mercredi au cours d'une visite au camp de réfugiés de Nduta en Tanzanie. Elle faisait partie d'une délégation burundaise partie pour sensibiliser les réfugiés au rapatriement. Un discours qui ne rassure pas les réfugiés qui estiment qu'ils ont le plein droit de rester propriétaires des biens qu'ils ont laissés au pays. Plus de détails avec Pierre Garouungu.
Selon la gouverneure de la province Ruyigi, chef de délégation, la visite avait l'objectif de sensibiliser les réfugiés à regagner leur patrie. C'est après avoir remarqué que le nombre de réfugiés qui se rapatrient a diminué dans ces derniers temps. Dans son discours, Emerancienne Tabu a bien annoncé que certaines propriétés des réfugiés ont été saisies par ceux qui sont restés. Cette autorité leur a dit que s'ils ne rentrent pas tôt, rien n'empêche que d'autres seront occupés.
Revenez dans vos familles. Comme l'a dit le président du tribunal de grande instance, aussi longtemps que vous traînez, les gens s'accaparent de vos propriétés. La plupart des litiges que nous recevons sont des problèmes fonciers. Ceux qui sont absents pendant plusieurs années se retrouvent leurs propriétés déjà occupées par d'autres, ce qui crée des litiges interminables. Pourquoi? Parce que vous avez traîné. Ils les ont prises et les considèrent comme le leur. N'attendez pas que cela se passe et qu'ici, enfante, revenez.
Ce discours ne rassure pas les réfugiés qui croyaient reprendre leurs biens une fois retournés dans leur pays.
Une telle autorité qui dit que si les réfugiés ne rentrent pas dans l'immédiat, leurs propriétés seront occupées par d'autres, de soit les réfugiés. Nous croyons que si nous décidions de rentrer, nous serions installés dans nos propriétés. Vous sentez que ce n'est pas facile.
Vous saurez qu'à part la gouverneure de la province Luyigi, d'autres administratifs et des responsables policiers, dont le commissaire régional des provinces Kitega, Ngaro et Murambia, étaient membres de la délégation.
Inzamba. La pénurie de sucre se manifeste au chef-lieu de la province Muyinga depuis plus d'une semaine. Une situation qui inquiète les habitants, plus particulièrement ceux qui ont des petits-enfants ayant besoin de sucre dans leur alimentation. Selon certains parents qui se sont entretenus avec la radio Inzamba dans plusieurs boutiques, le sucre est devenu rare et quand on en trouve, par hasard, son prix est de 3500 francs le kilo. Les précisions avec Jean-Vier Rugira.
Depuis plus d'une semaine, plusieurs boutiques du centre urbain de la province Muyinga connaissent une pénurie de sucre, selon certains parents. S'ils ont la chance d'en trouver, il est vendu en cachette à un prix de 3500 francs le kilo, déplore notre source, alors que le prix officiel est de 2000 francs burundais le kilo. Des familles qui ont besoin du sucre pour l'alimentation quotidienne de leurs enfants se demandent où sont passés les quelques commerçants qui alimentaient ainsi que la population consommatrice en temps réel dans le centre urbain de la province de Muyinga. Ces familles appellent les autorités provinciales à trouver une solution à cette pénurie et à sensibiliser les fournisseurs pour qu'ils approvisionnent la province de Muyinga comme ils l'ont fait ces derniers mois, afin d'éviter une grave pénurie comme celle de l'année dernière. La rédaction de la radio Inzamba, Agata Kawe, n'a pas encore obtenu la version du gouverneur de la province de Muyinga pour éclaircir cette situation suite aux inquiétudes exprimées par la population de Muyinga.
La monnaie burundaise continue sa chute libre face au dollar américain. Cette chute de franc burundais est due à la suspension des aides internationales, alors que les exportations sont insignifiantes pour que le Burundi obtienne suffisamment de devises. Ce sont les explications fournies par André Nikwigize, expert économiste. Suivez-le.
Je vous dirais que l'aide au développement qui était évaluée à environ 600 millions de dollars américains en 2014 ont baissé jusqu'à 160 millions de dollars américains en 2020. Alors la situation financière du Burundi était alors dans l'impasse. Le gouvernement ne sachant plus quoi faire. Les réserves en devises baissèrent considérablement jusqu'à ne couvrir qu'un mois d'importation et la banque centrale fut contrainte de gérer le peu de ressources en devises pour donner priorité aux importations de médicaments, de carburant et d'engrais. Il faut noter aussi ici que les recettes d'exportation ne couvrent que 30% des importations. Le reste devant provenir des financements extérieurs. Par conséquent, depuis 2020, le gouvernement se trouve dans une situation de crise financière. Alors, la Banque centrale n'étant plus à mesure de fournir des devises aux importateurs ou aux bureaux de change, ces derniers s'approvisionnent auprès des touristes et d'autres visiteurs qui préfèrent échanger leurs devises sur le marché parallèle qui leur offre les meilleurs taux de change. Et c'est la loi de l'offre et de la demande, évidemment. Et en mars 2020, dans l'espoir de stabiliser la monnaie nationale, la Banque centrale décida de fermer les bureaux de change sous prétexte qu'ils n'ont pas respecté la réglementation de change de la BRB. Ce qui veut dire que malgré la fermeture des bureaux de change, les opérations de change ont continué. Comme cela se voit, le gouverneur du Burundi est aujourd'hui dans l'impasse financièrement. Par conséquent, aussi longtemps que la Banque centrale n'aura pas de devises suffisantes pour approvisionner le marché d'importation, la dépréciation du franc burundais, malheureusement, va se poursuivre. Et il y a un grand risque que demain, par exemple, les commerçants qui s'approvisionnent sur le marché parallèle à des taux élevés exigent désormais d'être payés en dollars pour leurs produits.
André Nikwigize recommande au gouvernement burundais de mettre en place une équipe de suivi de fonctionnement des devises. Le gouvernement devrait aussi miser sur l'augmentation de la quantité des exportations pour avoir suffisamment de devises. Encore une fois, écoutez-le.
Je pense qu'il y a quatre mesures principales que je pourrais proposer. D'abord, il revient au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent. La première mesure serait une meilleure gestion des devises disponibles. Je pense qu'il y a un clientélisme et des fraudes massives dans l'octroi des devises. Certains soi-disant importateurs reçoivent des devises car peut-être étant parents ou alliés politiques du chef de l'État, du premier ministre, d'un ministre quelconque ou du gouverneur de la banque centrale. Et certains reçoivent des devises et n'importe pas et réalimentent le marché parallèle. Et deuxième mesure, ce serait d'accroître les exportations de biens et substituer certaines importations. Je pense notamment à l'intensification de la production et de l'exportation du café. Je vous dirais que en 1992, les exportations du café atteignaient 40 000 tonnes. Aujourd'hui, c'est à peine 7 000 tonnes de café. On ne sait pas pourquoi. Mais aussi, il faudrait envisager de réduire les importations non essentielles. Je ne vois pas pourquoi on utilise le peu de devises qu'il y a à importer. Des véhicules de luxe comme on envoie en ville. Alors la troisième mesure à laquelle je pense, c'est évidemment remplir les conditions exigées par les institutions internationales telles que l'Union européenne, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, qui permettraient au gouvernement du Burundi de recevoir de nouveau des aides extérieures. Et enfin, la quatrième mesure à laquelle je pense, c'est d'envisager un système de taux de change multiple ou flexible. Je sais que depuis plus de 40 ans, la monnaie burundaise a subi des fluctuations diverses en fonction de l'évolution de l'économie mondiale et de la situation financière de l'économie burundaise.
Inzamba.
Les membres du conseil communal de Nyanzarak dénoncent des intimidations dont ils font l'objet. Ces intimidations sont ourdies par l'autorité communale. La réunion de mercredi s'est terminée en queue de poisson à la suite d'un climat malsain entretenu par le vice-président du conseil et l'administrateur communal de Nyanzarak. On fait le point avec Andy Claude Nina Hazgwe.
Selon certains membres du conseil communal issus du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, la réunion de ce mercredi s'est tenue dans un climat tendu. Les membres du conseil communal issus du CNDD-FDD avaient, dans un premier temps, voulu boycotter cette réunion et il a fallu que le secrétaire communal ad intérim du CNDD-FDD, Ernest Chiza, passe des appels à tout un chacun sur fond d'intimidation pour que la réunion ait finalement eu lieu. Dans une réunion préparatoire du conseil communal à la permanence du parti CNDD-FDD, ce membre du conseil communal issu du parti CNDD-FDD ont reçu le mot d'ordre de se présenter à la réunion du conseil communal et voter positivement tous les points inscrits à l'ordre du jour. Arrivé à la salle de la commune, que ce soit les conseillers du CNDD-FDD ou ceux du CNL, tous ont répondu présents et ceux du CNDD-FDD ont voté tel que recommandé, tandis que les conseillers du CNL se sont abstenus de voter. C'est ainsi que le vice-président du conseil communal, Nyanzalak Elias Chiza, s'en est pris à un membre du CNL, arguant qu'il a refusé de voter en l'accusant qu'il est en train d'enregistrer ce qui se passe dans la salle pour les donner aux médias. Ce comportement d'Elias Chiza du CNDD-FDD a choqué certains de ses collègues du conseil communal issu du parti au pouvoir. Une forme d'humiliation selon son membre du CNDD-FDD.
Ce qui se passe vraiment fait la honte dans notre commune. Nous demandons à nos supérieurs de nous enseigner et nous former sur une même compréhension de notre parti et surtout comment vivre en harmonie avec les membres d'autres partis politiques.
La même source précise que cette réunion s'est clôturée en queue de poisson car les derniers points inscrits à l'ordre du jour n'ont pas été analysés suite à cette perturbation. À cet effet, nous avons cherché l'administrateur communal de Nyanzalak, Marie-Gorette Yangunda, mais il n'a pas répondu à notre appel. Ces membres du conseil communal issus du parti CNDD-FDD demandent aux instances habilitées de trouver une solution à la crise de leadership à la tête de cette commune de Nyanzalak, une crise qui va bientôt durer 5 mois.
Et pour terminer, grogne au sein du personnel de la société de gardiennage ASEC. Les agents viennent de passer 2 mois sans percevoir leur salaire. Il demande à la direction générale de la SEC de régler cette question. Karine Doussabé.
Ce mauvais climat qui règne au sein du personnel de la société de gardiennage ASEC date de 2021. Le personnel passait plus d'un mois sans percevoir leur salaire. Et des fois, le salaire venait très tardivement vers le 15 de l'autre mois. Dans ces agents de sécurité de la société de gardiennage ASEC, le nouveau directeur général leur avait promis de contracter un crédit pour régler le salaire du personnel, mais rien n'a été fait jusqu'à maintenant. Ils affirment qu'ils viennent de passer 2 mois sans percevoir leur dû, comme le témoigne un des employés de la société.
Nous sommes au deuxième mois sans percevoir notre salaire.
aucune fois. Ils nous ont payé à une date précise de fin du mois. Regardez la deuxième à laquelle nous sommes aujourd'hui sans être payés le salaire du mois de janvier. Entre-temps, les intérêts de retard augmentent pour ceux qui ont contracté des petits crédits. Imaginez-vous, nous qui touchons un maigre salaire. Un agent qui touche 65 000 francs burundais avec un crédit bancaire, comment peut-il vivre? Ce petit salaire ne peut pas ni te faire vivre ici en ville, ni te nourrir. On a des échos que ceux qui travaillent dans l'administration, dont le directeur général, le DAF, le secrétaire, les conseillers sont régulièrement payés. Imaginez-vous, ils commencent par eux-mêmes, alors que c'est nous, les petits agents, qui sommes fatigués parce que nous passons des jours sans repos. Eux, ils ne travaillent même pas pendant les jours fériés, alors que nous, nous sommes au travail.
Le personnel de la société ASEC dit que cette question a été soumise au ministère de l'Intérieur, mais rien n'a été fait. Face à toutes ces inquiétudes du personnel de l'ASEC, la rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore obtenu la version de la direction générale de l'ASEC.
Fin de cette édition, merci à la rédaction de la radio Inzamba Gatika Kawe pour la production de ce journal. Un grand merci surtout à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Un agréable week-end à tous. Au revoir.